Bonjour Daniel, c'est Zoé. J'ai vu au supermarché qu'une grande marque de mouchoirs en papier avait commercialisé en doublant presque le prix de la boîte de 150 mouchoirs, des mouchoirs qui protègent contre la grippe A. Alors, à quand les mouchoirs qui protègent des banquiers malhonnêtes ou bien de la solitude?
Alors voilà, je voudrais apporter mon soutien aux 7 salariés de Continental là, qui ont été condamnés voilà, par l'injustice. Voilà, quant à moi, je passe avec un copain le 4 de ce mois-ci à Grenoble au tribunal pour avoir résisté à la police lors de la manif du 1er mai. Voilà, donc j'espère qu'on va tous pouvoir se soulever là parce que ça va plus. Bon, allez, bon courage à tous. Ciao.
Mermaid nous a fait le cinéma là qu'il allait être viré et il est revenu. Bah dites donc, c'est super ça. Il nous fait ça tous les ans. Je vais être viré. Puis il revient. C'était comme Miller à une époque. Bon, c'est pas pour ça que j'appelle. Je vous appelais parce que vous avez passé un message d'un mec, qui était outré parce qu'il a trouvé des haricots sans fil qui avaient des fils, ou qui avaient des fils et qui étaient sans fil, dans une déchetterie. Et puis qui trouve des petites patates dans les champs, qui sont pas ramassées. Des oignons, des tout ce qu'il veut. Eh ben écoutez, ce mec-là, là, qui apparemment il doit être un bon petit chômeur, qui doit vivre au crochet de la société, moi je lui conseille une chose, c'est de ramasser tout ça, et puis d'aller les vendre sur le marché. Voilà, comme ça lui fera du pognon, et ça coûtera moins cher à la société.
Bonjour là-bas, samedi prochain, 15h à Strasbourg, on refait le monde à la hache. Menons à Miergé, calme. C'est le nom du café où se réunit le repère de Strasbourg, rue de l'ancienne douane. C'est vous dire si c'est tapis dans l'ombre. Certainement plein de sujets à ne pas aborder pour cette rentrée, comme par exemple, si les Français disent non à la grippe A, y aura-t-il une grippe B? Ou bien, pour éviter la contamination, ne faudrait-il pas interdire toute manifestation et même tout attroupement de plus de 1000 personnes? Sans oublier, dans les actions de quel labo pharmaceutique faut-il placer son RMI-RSA? Rien de tout cela, espérons-le, plein d'autres choses à Strasbourg. 15h, le café il s'appelle la H. À samedi, merci là-bas.
Ce mercredi soir à 18h, place du marché à Flers, dans l'Orne, un rassemblement aura lieu pour crier notre refus du système ultralibéral et pour rappeler à Sarkozy, qui vient dans notre charmante campagne ce jeudi inaugurer l'usine Faurecia, hyper subventionnée et déjà prête à dégraisser. Rappelez donc à Sarko que les ploucs ne sont pas dupes et prêts à se battre. Voilà, bisous, c'était Pierrot. À plus.
Oui, bonjour. C'est pour vous annoncer la création d'un nouveau café repère à Alban dans le Tarn. Il aura lieu tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. Le premier aura lieu donc au mois de septembre, le jeudi 24, au café par café chez Marco. Merci à vous. Au revoir.
Oui, bonjour. Je voulais laisser un message suite à l'émission d'aujourd'hui sur le monsieur qui a été accusé injustement d'attouchement et tout ça. Et ça m'a beaucoup ému cette émission. Et en même temps, j'ai envie aussi de dire qu'il faut pas oublier les personnes qui peuvent être de l'autre côté et celles qui ont vraiment été victimes et qui ont subi réellement attouchement ou autre et que la justice n'a jamais soit vraiment écouté ou jamais rendu justice et savoir à quel point ça peut les détruire et ça faut pas non plus oublier ça et c'est bien de faire écouter ce genre de témoignages comme celui qu'il y a aujourd'hui mais il y a aussi les autres et d'ailleurs dans ce témoignage à un moment on entendait bien la fille qui apparemment elle aurait subi des choses quand elle était plus jeune et il faudrait peut-être aussi se poser la question pourquoi elle a été jusqu'à accuser quelqu'un comme ça et alors qu'avant ça n'a pas pu être entendu quoi. Voilà, c'est égal.
Bonjour, c'est Jo de Nîmes. Je vais vous en raconter une. C'est terrible. Nous avons rencontré une fois une très belle femme qui avait le visage tuméfié et mon compagnon lui a demandé ce qui lui est arrivé et elle répond « J'ai été agressée par des Arabes ». Ah, et moi je lui demande « Votre lifting, là, il a été fait par qui ?»« C'est qui votre chirurgien ?» Il est vachement bien fait ce lifting. Voilà, mon copain ne savait pas qu'un lifting, ça laisse des bleus. C'est vraiment dégueulasse. Allez, salut.
Victime imaginaire et bouc émissaire, c'était le thème de reportage d'hier, et on voit à travers ce qui vient d'être dit par cette auditrice, oui, mais quand même, elle avait dû avoir quelque chose dans son passé. On voit, si vous vous référez, si vous étiez là hier, toute la puissance extraordinaire du préjugé, puisqu'il s'agit, il s'agit d'une erreur judiciaire, c'est-à-dire une erreur commise par des gens qui doivent justement, c'est tout le système et tout le sens de la justice, c'est de lutter contre le préjugé pour arriver bien sûr au jugé, au jugement. Aujourd'hui, c'est à nouveau le préjugé qui va être mis en jeu, et beaucoup de nos propres préjugés à nous, tous, mais par exemple à l'équipe de là-bas si j'y suis, et vous allez voir, ça va bouger dans les têtes, avec un seul homme qui s'appelle Yvan Segré. Yvan Segré est un philosophe, un docteur en philosophie, il est jeune, il a 35 ans, il vit en Israël, il vit à Tel Aviv, à côté de Tel Aviv, et il se consacre à l'étude du Talmud. Il se dit sioniste et il publie deux ouvrages chez Ligne, un éditeur qui s'appelle Ligne au pluriel. L'un s'intitule Qu'appelle-t-on penser Auschwitz, et le second s'intitule La réaction philosémite ou la trahison des clercs. C'est sur ce deuxième livre-là que nous allons parler, parce qu'il reprend toute une série de livres, d'ouvrages publiés depuis une dizaine d'années sur le thème de l'antisémitisme, sur le soupçon, sur l'accusation, sur la montée de l'antisémitisme, la renaissance de l'antisémitisme dans notre pays. Et pas seulement dans notre pays, mais notamment dans notre pays. Vous connaissez, on en a parlé assez souvent dans cette émission, mais pas seulement, bien évidemment, c'est un thème qui revient de façon permanente dans notre vie à tous, un malaise qui disparaît, qui revient, etc. Et là, je pense que c'est un regard singulier, une analyse singulière et passionnante qui nous est proposée. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. Je téléphone pour laisser un message pour les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et des environs. Mais c'est pour dire que le repère de Nîmes fait sa rentrée un mercredi 2 septembre à partir de 19h30 au café de la Brasserie sur le boulevard Gambetta. Voilà, venez nombreux, nous vous attendons tous. À bientôt.
Bonjour, c'est Hervé de Saint-Sauveur de Montagu dans l'Ardèche. C'est à propos de notre ami Kader Haddad. Je représente le comité de soutien. Kader a été arrêté et placé immédiatement en centre de rétention vendredi 21 août. Il risque d'être expulsé dans les jours qui viennent. Kader travaille depuis 3 ans en CDI. Sa compagne attend un enfant. Cette situation indigne révolte le village et la population de Saint-Sauveur de Montagu en Ardèche. Un comité de soutien s'est créé. Manifestez votre solidarité en signant la pétition sur le site mesopinions.com. C'est tout le village qui te soutient, Kader.
Il vit ici, il est ici, il va ici. Kader, Kader, tu vas rester parmi nous.
Bonsoir. Si le peuple iranien, dans son ensemble, mérite mieux que les dirigeants qu'ils ont, je pense que, pour ce qui me concerne et en toute modestie, je mérite mieux que le dirigeant que j'ai. Voilà, c'est Françoise à Paris. Au revoir.
Attention AMG du Pas-de-Calais, nous reprenons nos rencontres au repère de Monchy-Breton. Le repère de Monchy-Breton s'appelle chez Tartous et compagnie, et nous reprenons ce jeudi 3 septembre à partir de 18h30. Je rappelle que Monchy-Breton est un petit village situé entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras. Venez nombreux, et bon courage à tous ceux qui ont repris le travail.
Nous invitons tous les amis de là-bas si j'y suis au 13e festival de l'avenir au naturel de l'Albinque en Isère à côté de Grenoble du 4 au 6 septembre, avec Jean Ziegler qui sera l'invité vedette le 4 septembre sur le thème à 20h30, le massacre quotidien de la faim, avec Colin Serrault qui viendra animer un débat pour présenter un futur film qu'elle va présenter dans les grandes salles en février prochain, Solution globale pour un désordre global. Donc le samedi 5 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de l'Albinque, 250 stands, 40 conférences, 35 000 visiteurs et des milliers d'amis de là-bas si j'y suis qui vont refaire le monde pour qu'il soit plus propre, plus beau, plus vivant. Donc venez à ce festival pour tout renseignement 04 76 36 50 10 ou www.enisere.asso.fr. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Yvan Segré, la réaction philosémite ou la trahison d'éclair.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Yvan Segré, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez chez Ligne, un éditeur qui s'appelle Ligne, avec un S au pluriel. Un bouquin, et même deux, mais on va parler de celui-là d'abord, tout à fait singulier, qui s'appelle « La réaction philosémite » ou « La trahison d'éclair ». Ça, c'est un livre, et vous en sortez un autre en même temps, qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser Auschwitz ?». Alors, c'est deux livres tout à fait passionnants, mais on va parler que de celui-là, si vous voulez bien, la réaction philosémite, parce que ça nous concerne, ça concerne un peu, d'une certaine façon, cette émission, et les auditeurs qui nous sont fidèles. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, depuis pas mal d'années, en France, s'est installée une inquiétude devant une certaine renaissance de l'antisémitisme. Et il y a une lutte qui s'opère contre cette renaissance de l'antisémitisme. On a vu s'installer un climat de soupçons et même d'accusations contre un certain nombre de personnalités, de chercheurs, mais aussi des catégories sociales qui ont été visées en lien avec cette montée, cette renaissance de l'antisémitisme. Certains groupes, les jeunes des quartiers, les progressistes, qui ont été visés. Jusqu'à ce qu'on arrive à un soupçon un peu généralisé, il y a une certaine banalisation de l'antisémitisme, c'est-à-dire on est finalement, tout le monde est susceptible d'être soupçonné et accusé d'antisémitisme. Tout ça a créé un malaise qui se prolonge toujours aujourd'hui. Ça dure quand même depuis pas mal d'années. Et il y a un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels qui ont produit des ouvrages dont vous parlez dans ce bouquin et qui défendent évidemment Israël d'une part et d'autre part s'avancent pour lutter contre l'antisémitisme. Et ils ont produit un certain nombre d'ouvrages. Et vous les analysez, vous les décortiquez, vous les passez à la moulinette, et vous en sortez, cet ouvrage et le sens qui est le vôtre, c'est-à-dire que vous voyez derrière tout ça une défense de l'Occident. En fait, vous voyez derrière ça une poussée d'une réaction. Alors, on va commencer par une toute petite chose, Yvan, si vous voulez bien, c'est que vous vous présentiez en quelques mots. Vous vivez maintenant à Tel Aviv, vous vivez en Israël, vous êtes docteur en philosophie.
Oui, j'ai 35 ans, j'ai vécu mes 30 premières années en France, j'ai fait des études de philosophie et de littérature, et puis je me suis en quelque sorte reconverti dans les études talmudiques, et comme l'étude du Talmud... Et le cœur de l'étude talmudique se trouve en Israël aujourd'hui. Je suis parti vivre en Israël, j'ai pris la nationalité israélienne, et en ce sens-là, je puis dire que je suis un sioniste, puisque si la défense du sionisme a un sens, après tout c'est celui-ci, c'est celui de choisir de vivre en Israël. Et je dirais que ce choix ne dépend absolument pas d'une quelconque peur de qui que ce soit en France. J'ai beaucoup de sympathie personnellement pour la communauté maghrébine en France, et beaucoup de sympathie aussi pour beaucoup de progressistes et d'intellectuels en France. Ce qui motive le fait de décider de faire son alias, à monter en Israël, c'est qu'on a un certain rapport avec la tradition juive et qu'on pense que l'avenir de cette tradition, du judaïsme, se joue aujourd'hui en Israël, avec toute la complexité de la situation là-bas, évidemment, mais qui est en tout cas porteuse de cet avenir à mon sens, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir vivre là-bas, et ce qui, soit dit en passant, laisse ouvertes les possibilités de d'orientation politique les plus ouvertes. On peut faire son alliance en étant partisan d'un État binational, on peut faire son alliance en étant partisan convaincu de la nécessité d'une souveraineté juive en Palestine, on peut, bref.
D'accord, mais alors, avant de vous installer à Tel Aviv, vous avez fini ces bouquins, c'est ça, ces deux bouquins qui,
oui,
c'est votre thèse de doctorat, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et je voudrais évidemment, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'abord de parler de ça à travers ces auteurs que vous analysez, hein, c'est-à-dire tous ces auteurs qui sont connus du grand public, qui sont Alexandre Adler, qui sont Alain Finkielkraut, qui sont Pierre-André Taguieff, qui sont Riana Fallaci, et vous proposez un voyage véritablement à travers ces auteurs. Mais encore une fois, il y a rien de vraiment polémique dans votre travail, hein. C'est vraiment une analyse de texte. Vous êtes un des rares, probablement, à avoir réussi à lire tous ces livres jusqu'au bout, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et les analyser phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, idée par idée, développement par développement.
Oui, oui, c'était effectivement, ma méthode, elle est simple. J'ai lu ces textes, j'ai fait un choix de textes, je les soumets au lecteur et j'en propose une analyse. Donc on peut comparer mon analyse avec le texte lui-même et décider de la pertinence ou pas, c'est ça. Ça revient au lecteur. C'est aussi une méthode de travail.
Oui, mais enfin, elle n'est pas couramment pratiquée. Parce qu'on s'empresse de prendre des positions, on s'empresse de prendre quelques extraits à toute vitesse, puis voilà, on s'en tient là.
Oui, bien sûr. Alors, finalement, vous avez dit tout à l'heure que le qualificatif d'antisémite, à force d'être utilisé, risquait d'être banalisé et que tout le monde risquait de pouvoir devenir antisémite. Je crois que non, précisément pas. Je crois que il faut bien comprendre que l'usage que font ces idéologues que j'ai analysé du terme antisémite est extrêmement ciblé. Précisément, il est extrêmement ciblé. L'enjeu fondamental est le suivant, à mon sens. Jusqu'à très récemment, l'antisémitisme qualifiait un courant xénophobe, négationniste, un courant qui aussi s'inspirait d'un mot d'ordre qui était celui de la défense de l'Occident, qui dans les années 30, même au-delà, était un mot d'ordre d'une droite ou d'une extrême droite. Aujourd'hui, leur position et de dire il faut repenser la notion d'antisémitisme. L'antisémitisme ne qualifie plus ce courant d'extrême droite, il va le qualifier d'autres personnes. Alors, évidemment, notamment la question de l'antisémitisme musulman, mais aussi, plus fondamentalement je crois, de qualifier d'antisémites des personnes qui ne sont pas susceptibles d'être porteur de préjugés, des personnes qui tiennent un discours qu'on appelle un discours intellectuel ou un discours critique. Et c'est ça la véritable nouveauté. Alors, prenons quatre exemples à mon sens tout à fait essentiels. Eyal Sivan, l'auteur du film Route 181. Alain Finkielkraut, on va bien sûr parler d'Alain Finkielkraut parce que c'est une figure importante de ce courant intellectuel que j'analyse. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus médiatique. Donc, forcément, ses propos sont intéressants. Et il a dit à propos du film de Sivan, il a dit « Eyal Sivan est l'un des acteurs de cette réalité particulièrement pénible, particulièrement effrayante, l'antisémitisme juif qui sévit aujourd'hui. » À propos du film Route 181, il y a eu aussi Edgar Morin qui a été poursuivi en justice, et Bourdieu, dans le cadre d'une émission sur France Culture avec Alain Finkielkraut, Jean-Claude Milner nous a fait part d'une thèse qui était la sienne au sujet d'un livre des héritiers de Bourdieu qu'il a qualifié de livre antisémite. Alain Badiou, bien sûr. Alain Badiou, ça, on a vu récemment encore Alexandre Adler parler du procès de Youssouf Fofana. Et puis on ne sait trop pourquoi revenir sur
l'antisémitisme insinuant,
voilà, presque invisible C'est-à-dire qu'un presque invisible, ça veut dire ne me demandez pas de d'apporter des preuves, une argumentation, une analyse de texte, parce que toute la perfidie de Badiou, c'est justement on ne peut pas le saisir, c'est ça qu'il exprime. Et également Daniel Mermet.
Oui, donc c'est quand même et une compagnie ça, alors, impressionnante.
Oui, alors l'intérêt, c'est qu'on voit bien autour des figures de Bourdieu, de Sivan, de Badiou, de vous-même, que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'analyser des préjugés antisémites qui vont s'exprimer, il s'agit de pointer un discours critique et de le qualifier d'antisémite. Et je crois que un des enjeux essentiels, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui se joue ici. Alors, parlons du film d'Eyal Sivan, si vous voulez bien.
Route 181, qui est un parcours le long d'une ligne en partie disparue, qui est la ligne verte.
Absolument, oui.
Avec Michel Kleffi, qui est un réalisateur palestinien. Donc, Eyal Sivan, il faut le rappeler, est un réalisateur de films, un cinéaste israélien, et qui fait avec Michel Kleffi ce film, Route 181, qui retrouve la ligne verte. Et c'est un chemin faisant, tout ce qui peut leur arriver sur cette ligne verte.
Voilà, donc il part avec sa caméra, ils partent avec leur caméra, à la rencontre des gens. C'est ça le motif du film. L'autre motif du film, évidemment, motif poétique, c'est que cette ligne verte, cette route 181, opère comme une sorte de cicatrice, de plaie béante, et que la seule manière de la guérir, c'est la réunification de la Palestine historique, et donc un État binational. Ça, c'est bien entendu ce qui va lui attirer les foudres, a priori, du moins, d'Alain Finkielkraut et d'autres, de Lanzmann, etc. L'autre reproche qui lui a été fait, c'est de détourner une scène très célèbre du grand film de Claude Lanzmann, Shoah, la scène du coiffeur, et où dans le film de Sivan et Kleffi, on voit un coiffeur palestinien parler de la Nakba,
la catastrophe, de la catastrophe,
c'est-à-dire de quitter leur foyer, les villages, etc. Mm. Et donc, ils vont accuser Sivan d'être un antisémite juif, et d'autre part aussi parce que le motif de son film, en appelant en quelque sorte poétiquement à un État binational, serait une manière de disqualifier ou de délégitimer l'État d'Israël. Alors, parlons de ce film parce que il est essentiel de comprendre ce que signifie qu'on ait qualifié Sivan d'être un antisémite juif et d'appeler même quasiment au meurtre des Juifs. D'ailleurs, il a poursuivi en justice Alain Finkielkraut. Bon, ça, c'est les suites judiciaires de cette affaire. Ça ne nous intéresse pas essentiellement. Ce film est un film admirable. Pourquoi? Parce que Sivan et Kleffi, on parlait de méthode, justement, de méthode dans l'analyse des textes. Parlons de méthode dans le processus de création d'un film. Ils vont avec leur caméra et ils vont à la rencontre des gens et ils prennent le temps de les laisser parler, de les laisser chacun raconter leur histoire. C'est un film qui dure 4 heures, qui est à l'opposé des films commerciaux qui nous assènent une vision du monde, qui nous assènent des représentations. Non, il laisse ouverte justement ce qu'on va appeler dans le cadre de cette émission, à la suite de Lacan, j'y reviendrai, une possibilité critique. Or, il y a une scène de ce film tout à fait exceptionnelle. C'est la rencontre d'un Israélien. J'ai vu ce film il y a quelques années, donc je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est autour d'un musée et la conversation vient sur la guerre de 48. Et on évoque à cet endroit se trouvait un village arabe qui depuis n'existe plus. Et l'Israélien répond, oui, mais si les Palestiniens avaient accepté le partage, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Le réalisateur palestinien Michel Kleffi, à ce moment-là, lui dit, mec, tu connais l'histoire du roi Salomon. Quelle est l'histoire du roi Salomon? Ce sont les deux mères qui se disputent un enfant. En disant, c'est mon enfant, le roi Salomon dit, bien, eh ben, nous allons partager. Et évidemment, l'une des mères accepte, et l'autre, la mère de l'enfant, dit non, eh bien, donnez-le lui. Et là, le roi Salomon comprend, évidemment, on comprend qui est la véritable mère de cet enfant. Donc, c'est une manière de dire, si les Palestiniens ont refusé le partage, c'est parce que cette terre était précisément la leur. C'était non pas la mère de la terre, mais en quelque sorte les enfants de cette terre nourricière, cette Palestine, qu'il faudrait réunifier. Que lui répond l'Israélien? Il lui répond cette chose. Mais une terre, ce n'est pas un enfant. Cette réponse est essentielle. Parce que, bien entendu, elle déconstruit le motif poétique qui construit le film de Sivan et Kleffi. Puisque, bien sûr, ce n'est pas une cicatrice dont la seule guérison possible est la réunification. Parce qu'une terre, ce n'est pas un corps. On pourrait traduire et dire, la réponse de l'Israélien, c'est la Palestine historique, ce n'est pas le corps du Christ. Et je voudrais ici rendre hommage, vraiment aux films de Sivan et de Cléphy. Parce que leur grandeur, c'est qu'ils n'ont pas coupé ça au montage. Ils l'ont laissé. Parce qu'ils ont respecté quelque chose d'essentiel qui est le processus de création d'une œuvre cinématographique. Et c'est ça leur grandeur. Et de là, on comprend que le message profond de ce film n'est pas du tout un message idéologique. C'est ce que Paul Celan, le poète Paul Celan, appelait l'éthique de la poignée de main. Et que c'est finalement cette éthique de la poignée de main, cette conception du cinéma qu'on a qualifiée d'antisémitisme. C'est cette conception du cinéma dont on a voulu nous faire croire qu'elle conduirait les jeunes des banlieues ou elle conduirait les gens à avoir des préjugés antisémites. C'est cette conception du cinéma dont on nous a dit qu'il fallait, alors qu'il y avait deux diffusions prévues dans un festival au Centre Pompidou, qu'il fallait les interdire.
Походкой по берлинскому Исайду, в кармане сети, на нем песен мегабайт. Все одна к одной, водка, хитс, нон-стоп. Эмигрантский рагамаффин, цыганский хип-хоп. И бомба сезона, берлинский Глесмертон. Для тех, кто слышал звон, знает, где он. Наш саунд-систем, диджеи-террористы. Взрываем танцпол, быстро и чисто. Брат Вайн, Ники Карс, Дэйв Тарас расшевелят любую публику на раз. А мы добавим бит и выкрутим бас, так что Орион и Марс услышали весь этот джаз. Я узнал этот саунд со старых кассет, их оставил мне мой дед. 100 лет побед, дал электрогитару, да здравствует корнет, клезмер и стед, а я еще нет.
Le 11 septembre 2001 a été une aubaine, on le sait maintenant, pour les néocons, ceux qu'on appelle les néocons aux États-Unis. La lutte contre le terrorisme a engendré toutes sortes de dérives dont on n'a pas fini de prendre tout à fait la mesure. Dérives au nom de la défense de la démocratie contre le terrorisme et le totalitarisme. L'islamisme ayant remplacé le communisme d'hier. En France, selon notre invité Yvan Segré, est également apparu un discours réactionnaire qui, sous un certain habillage, a renoué avec la défense de l'Occident au sens traditionnel réactionnaire de ce terme. Et l'habillage, eh bien, c'est la défense du sionisme, la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, en gros, ce qui parcourt son livre, la réaction philosémite ou la trahison des clercs, qui paraît aux éditions Ligne. Yvan Segré, je vous le rappelle, vit en Israël depuis 5 ans. Il se consacre à l'étude du Talmud et il se présente lui-même comme sioniste, dans le sens où il a choisi de vivre en Israël. Un regard original et puissant de ce docteur en philosophie. Alors, Yvan Segré, je reviens à votre livre. À travers l'analyse des textes de tous ces auteurs et à la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est-à-dire que derrière le résultat de leur travail, c'est une défense de l'Occident, au sens des valeurs occidentales, par opposition à d'autres civilisations. Il y a l'idée presque de guerre de civilisation derrière ça.
Sur le cas présent, c'est d'abord la défense d'un cinéma commercial, la détestation d'un cinéma qui donne la parole aux gens, comme votre émission donne la parole aux gens. La détestation d'un processus de création qui est porteur d'une telle éthique. La détestation qu'un cinéaste israélien et un cinéaste palestinien puissent ensemble faire un film comme celui-là. Et je crois que pour bien comprendre l'enjeu, il faut faire une comparaison. Comparaison avec d'autres œuvres. Et par exemple, le livre, je me suis intéressé, j'en parle, le livre New York brûle-t-il, de Dominique Lapierre et Larry Collins, édité chez Robert Laffont. Alors, leurs œuvres, ce sont des best-sellers, ils sont traduits dans le monde entier, ils sont vendus à des millions d'exemplaires, ils ont bénéficié d'une promotion extraordinaire, pesante, imposante. Et dans ce livre, eh bien, la trame de cet ouvrage est la suivante. Des terroristes islamistes parviennent à se procurer une bombe nucléaire qu'ils cachent dans New York et ils exigent le retrait des colonies israéliennes, des implantations israéliennes en Cisjordanie et à Gaza. Or, il est aussi important de rappeler que dans la quatrième de couverture, on nous explique 2 ans d'enquête, une quantité impressionnante de documents examinés, dont beaucoup ultra confidentiels, plus de 300 personnes interrogées aux États-Unis, en Israël, en Grande-Bretagne, en Inde, dans les centres les plus secrets de la guerre contre le terrorisme. Donc, l'effet de réel est inscrit. Les personnages sont des personnages non pas fictifs, mais réels. C'est George Bush, c'est Dick Cheney, c'est Ariel Sharon, etc. Or, ces terroristes demandent l'évacuation des implantations en Cisjordanie sous peine de faire exploser la bombe de détruire New York. Sharon refuse et propose tout simplement de dire, eh bien écoutez, ce qu'on peut faire par contre, c'est pour vous venger, on va aller détruire le Pakistan à l'aide de l'arme nucléaire. Alors, les Américains refusent, parce qu'ils ont une conception de l'existence tout à fait autre que celle des Israéliens. Ils respectent la vie humaine et ils refusent de faire payer à des innocents le prix de la méchanceté des terroristes. Donc ils vont finalement retrouver la bombe par eux-mêmes, prendre ce risque-là. Et la conception, on voit bien la position de Sharon, la position de l'Israélien dans cette affaire, elle est très claire. C'est lui la cause du mal, c'est lui la cause du terrorisme, puisque les terroristes n'ont aucun reproche à faire à la politique américaine. Le seul reproche, c'est les colonies. Les terroristes islamistes ne demandent rien d'autre que la restitution des colonies. Et Sharon s'y oppose absolument farouchement et il est prêt à faire sauter la planète, finalement, plutôt que de rendre quelques hectares. Or, il est intéressant que c'est un livre qui sort en 2004 et qu'en octobre 2004, il y a dans le journal Le Monde un petit encadré. M. Pérez craint pour la vie de M. Sharon parce que suite à la décision du retrait de Gaza, il était menacé de mort par des courants extrémistes. Et on comprend bien que cet ouvrage-là est porteur de préjugés anti-juifs très évidents pour quiconque connaît un peu la littérature et comment a fonctionné le préjugé anti-juif dans la littérature occidentale. C'est-à-dire que l'Israélien, celui qui est ou le juif, Sharon c'est la figure du juif, c'est un allié fourbe qui est prêt à vous lâcher et qui n'a aucun respect de la vie humaine. Or, évidemment, ce n'est pas du tout sous forme d'un discours critique, c'est une production commerciale qui va inonder les librairies, les écrans sous la forme d'une promotion et qui présente une image d'Israël extrêmement négative, de manière extrêmement virulente en réalité sous l'aspect d'un ouvrage de suspense. Est-ce qu'on a entendu ces personnes qui ont accusé Sivan d'être un antisémite, est-ce qu'on les a entendues émettre la moindre critique?
Non, mais ils n'ont pas du tout lu ce livre comme vous l'avez lu.
Écoutez, je vois pas comment des gens qui prétendent Alain Finkielkraut vient d'écrire un livre en tant que lecteur. Ces personnalités, Eric Marty qui a aussi parlé de qui lit Badiou, qui découvre l'antisémitisme dans Badiou, qui le découvre dans les films d'Eyal Sivan, et qui nous explique que leur souci fondamental, c'est de défendre Israël et de lutter contre les préjugés anti-juifs. Alors je m'étonne, parce que moi ça a été mon souci quand j'ai fait cet ouvrage. Ça a été de m'intéresser à cette question-là, la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui et la défense d'Israël. Or, je compare leur méthode à la mienne. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus dangereux en termes de préjugés, de la manière de sournoisement introduire des préjugés anti-juifs ou anti-israéliens dans la conscience occidentale, est-ce que c'est le film de Sivan ou est-ce que c'est cet ouvrage?
Alors, Yvan Segret, est-ce que ça intéresse vous qui vivez maintenant en Israël, est-ce que toutes ces histoires-là intéressent les Israéliens? Est-ce que le film de Eyal Sivan a été vu? Comment il a été vu en Israël?
Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien. Ce que je puis vous dire, c'est que je ne crois pas qu'en Israël, ils s'intéressent beaucoup au phénomène que j'ai étudié. C'est un phénomène très français, qui concerne la société intellectuelle française.
Oui, mais qu'est-ce qui les fait courir, ces gens-là? Comment, on a dit, ce sont des intellectuels communautaires. Est-ce qu'ils représentent la communauté juive française?
Absolument pas, selon moi. Si on donne un sens au mot communautaire, un sens authentique, absolument pas. Ce sont des idéologues qui ont une certaine conception de la lutte contre l'antisémitisme, qui demandent à être analysés, et pour l'essentiel, leur position va être d'instrumentaliser le terme d'antisémitisme pour disqualifier une pensée critique. Or, cela va se faire au détriment d'une véritable lutte contre les préjugés antisémites, qui existent véritablement.
Quel est leur but en attaquant cette, en discréditant cette pensée critique? Quel but poursuivent-ils?
Prenons un exemple. À mon sens, la récente attaque d'Alexandre Adler dans Le Figaro contre Badiou, Adler évoque un libelle, dans un libelle récent, Badiou parlait de l'inexistence du peuple juif, ce qui est absolument faux. Bon, on y reviendra, etc. Et en parlant de son antisémitisme presque invisible, insinueux, etc. Ce libelle récent, circonstance 3 portée du mot juif, date de 2005. Donc c'est il y a 4 ans. C'est pas tout à fait récent. En revanche, il y a eu depuis circonstance 4 et circonstance 5. Circonstance 4, de quoi Sarkozy est-il le nom? L'analyse que propose Badiou de la victoire de Nicolas Sarkozy et, à travers lui, finalement, d'une certaine droite. Circonstance 5, l'hypothèse communiste, qui est la manière dont Badiou pense la pérennité, la nécessité, plus que jamais, de l'hypothèse communiste. Vous voyez bien que ce que vise Alexandre Adler, quand il parle de libelle récent, c'est circonstance 4 et circonstance 5. Simplement, pour s'opposer à la pensée philosophique de Badiou, quoi de mieux que de manipuler le terme antisémite en parlant d'un antisémitisme presque invisible, ce qui nous conduit finalement à dire pas de débat critique, pas d'argumentation, l'affaire
c'est
est
ça,
réglée.
C'est ça, c'est une arme, un chantage permanent, accusation ou soupçon d'antisémitisme, ce qui est très lourd et ce qui vise à discréditer n'importe qui, n'importe quand.
Pas n'importe qui, et pas n'importe quand, précisément. Après que Badiou ait écrit circonstance 4 et circonstance 5, et précisément Alain Badiou. Encore une fois, l'essentiel est là. À travers la lutte contre l'antisémitisme, ces intellectuels ne nous proposent pas d'analyser la manière dont les préjugés anti-juifs ou anti-israéliens, et parfois, effectivement, c'est clairement la même chose, fonctionnent dans des œuvres culturelles, intellectuelles, cinématographiques ou autres. Non, ce n'est pas ça leur propos. Leur propos, c'est de disqualifier une certaine pensée critique, une certaine possibilité.
Oui. Mais quand Sharon venait dire le pays le plus antisémite au monde, c'est la France, etc., au point que le président Chirac avait été obligé de faire des déclarations furieuses contre ça, là, c'est bien quand même une utilisation du chantage à l'antisémitisme, du soupçon d'accusation d'antisémitisme à des fins politiques.
Absolument pas, en réalité. C'est... Et le propos de Sharon était évidemment scandaleux, de stigmatiser ainsi la communauté musulmane, mais ce n'est pas lui l'auteur. Qu'est-ce qu'il fait Sharon? Sharon, son intérêt, c'est de susciter une alia en Israël. Il y a en France un discours qui stigmatise les Maghrébins. Alors Sharon s'inscrit dans ce discours-là, mais il y aurait un autre discours, il serait inscrit dans un autre discours. Si en France il y avait un discours autre, et par exemple, s'il y avait une véritable défense du sionisme qui soit pensée et qui soit affirmative, alors Sharon n'utiliserait pas ce discours. D'autant plus qu'il est absolument absurde, parce que dire à des gens qui vivent en France, des juifs, et il y a trop d'arabes en France, venez en Israël, c'est une sacrée blague. Parce que je peux vous dire qu'en Israël, vous êtes beaucoup plus entouré par le monde arabo-musulman que si vous vivez en France.
Ah, oui.
Et que la situation là-bas, elle est, quelles que soient les positions de chacun, mais elle est autrement plus extrême, autrement plus radicale, autrement plus sérieuse que les fantasmes qu'on nous assène ici en France concernant les émeutes, les cités, etc.
Yankel kvit de West Side Daisy, eh? Went cross town and joined YMCA. Soon Bacon and Pork, he began to enjoy. Took off his yarmulke, Yid was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. and the members are fantastical. She was shocked when he heard the news. He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bendis long hair's got a Mexican name. I said, hey, Hirsch, take a walk on the kosher side. I said, hey, kid, take a walk down Fairfax. Yeah, start there. Yeah, give me a forward there, will you? Go in the corner there. Give me a Danish. Yeah, I'm sick. I can't walk up there by myself. Give me a cup of coffee. Little Katz was taking his bar mitzvah lesson. Cross the street, a Schicksal was undressing. And one day, to the rabbi's surprise, Katz was shown the way he was circumcised. I said, hey, Cassie, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax and the members of it have to go. A girl, a thing like that, boy. You know what's going to happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot money out of here, Randy. I never got to get a sandwich or something. I can't take this anymore.
On continue avec Yvan Segré qui publie La réaction philosémite ou La trahison des clercs chez Schelling avec cette analyse qui vise à par une analyse extrêmement précise, fouillée, encore une fois il faut y insister, des textes produits par tous ces intellectuels qui se positionnent en défense d'Israël, d'une certaine forme, différentes formes d'ailleurs de sionisme et une lutte contre l'antisémitisme. Et c'est par l'analyse des textes, parce qu'effectivement il y a pas mal de livres qui ont été produits dans les 10 dernières années, mais c'est vrai que on les a pas toujours lus jusqu'au bout et analysés avec la même acuité. Alors, vous consacrez de nombreuses pages à Pierre-André Taguieff, qui est celui qui a le plus œuvré dans cette lutte pour dénoncer un nouvel antisémitisme, une nouvelle judéophobie, et qui a vraiment travaillé beaucoup lui dans ce sens-là. Et puis vous finissez ensuite votre parcours à travers ces auteurs avec la lecture de trois ouvrages de la journaliste italienne Oriana Fallaci. J'aimerais que vous parliez un petit peu de vos analyses du travail de Pierre-André Taguieff.
Bien, je crois.
Même si en fait tous ces auteurs se suivent dans votre analyse.
Alors. Ça fonctionne à plusieurs niveaux. Je crois que la cohérence, l'intérêt des textes de Taguieff dans ce courant idéologique, il reprend des points fondamentaux. Le premier, c'est d'identifier l'antisémitisme avec l'anti-américanisme. C'est la correction qu'il apporte à la thèse d'Annie Krigel. Je cite Taguieff. Annie Krigel posait que l'antisionisme est au communisme ce que l'antisémitisme fut au nazisme. Mmh. La formule doit être aujourd'hui revue et corrigée. L'antisionisme criminalisant et l'anti-américanisme diabolisant sont au néo-communisme et au néo-gauchisme ce que l'antisémitisme rédempteur fut au nazisme. Mmh. Il y a un enthousiasme rhétorique propre à Pierre-André Taguieff. Outre cela, l'essentiel de sa correction, c'est de dire l'antisémitisme, ça ne concerne pas que les Juifs ou Israël, ça concerne aussi l'Amérique. Dans la suite de son propos, il expliquera une thèse aussi chère à ses intellectuels, que la francophobie et la judéophobie, ça opère de concert, et ensuite ça aboutira à ce que Alain Finkielkraut signe une pétition appelant à lutter contre le racisme anti-blanc. Donc là, on a un peu le sentiment que les choses sont dites très clairement. Mais Pierre-André Taguieff est également intéressant parce que, à travers ses textes, il y a une critique aussi d'un certain nombre d'auteurs dans les sciences humaines, de sociologues, d'ethnologues, qui renvoie, encore une fois, à une tradition sociologique, ethnologique française, celle de Bourdieu, de Lévi-Strauss, qui remonte aussi à Montaigne, finalement. Que disait Montaigne? Montaigne disait « Chacun nomme barbarie ce qui n'est pas de son usage. Mmh. » Lévi-Strauss a fait un pas de plus, il a dit « Barbare, celui qui croit en la barbarie. » Alors, il est évident que si on veut installer un discours qui consiste à dire que le voile islamique est le signe d'une barbarie, que la toute différence d'ordre ethnologique relève très rapidement d'une forme de barbarie, évidemment que ces auteurs-là se sont à bannir et qu'il faut les disqualifier. Et il ne faut pas oublier, à mon sens aussi, un point tout à fait essentiel, c'est que l'apport principal de ces intellectuels dans le débat public se sera concrétisé par une loi qui interdira donc le voile islamique et la kippa juive, en termes de vêtements, dans les écoles. Or, je ne pense pas, très sincèrement, que cette interdiction-là ait quelque rapport que ce soit avec la lutte contre l'antisémitisme. Je voudrais vous faire part d'une anecdote. Un ami à moi, qui porte la kippa, quelques mois après l'entrée en vigueur de cette loi, se rend dans un commissariat de police pour déclarer la perte de ses papiers d'identité. Le fonctionnaire de police, pour entrer en matière, lui dit « Enlevez-moi ce machin que vous avez sur la tête. On est en République ici. » Mon camarade, étonné, lui dit « Mais enfin, justement, on est sur une République, on n'est pas sous Vichy. » Il dit « Non, regarde, maintenant les choses sont différentes, vous enlevez votre machin. » Il obéit, il obtempère, il enlève sa kippa, il fait sa déclaration. Le fonctionnaire ne lui a pas demandé s'il avait ses papiers, c'est l'histoire de Coluche, bref. Suite à cela, il en a parlé autour de lui, et des responsables communautaires sont au commissariat, et les choses ont été rétablies. Ils ont expliqué à ce fonctionnaire qu'il avait fait un excès de zèle, que c'était dans le cadre simplement des écoles qu'il y avait une interdiction, mais pas en dehors et pas dans un commissariat. Mais cette conclusion qu'a tirée de lui-même ce fonctionnaire de police n'est pas inintéressante.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'école, c'est un lieu où on transmet les valeurs de la République. Mais la police aussi. La police a pour mission de défendre et de transmettre les valeurs de la République. Donc, si la kippa juive est contraire à ces valeurs-là, eh bien, elle n'a pas sa place non plus dans un commissariat de police. On lui a dit non, ce n'est pas les conséquences qu'il faut en tirer. Quelles sont les conséquences qu'il faut donc en tirer? Je l'ignore. Mais, en tout cas, je doute fortement que cette loi ait à voir de près ou de loin avec la lutte contre l'antisémitisme et encore moins avec la défense d'Israël.
On arrive vraiment tout à fait au terme là, Yvan, de cette rencontre. Mais je voudrais quand même, en quelques mots, que vous évoquiez les livres d'Oriana Fallaci, parce que vous avez mis le doigt sur des choses extraordinaires qui sont dans ces textes délirants de cette journaliste italienne. Livres qui ont eu beaucoup beaucoup de succès en Italie et en France aussi, et qui ont été défendus par certains de ceux que vous avez cités, dont Alain Finkielkraut et Pierre-André Taguieff, qui se sont montrés bienveillants vis-à-vis de ces textes.
Oui, c'est un peu, on boucle la boucle, si je puis dire. C'est quand on s'en prend à la possibilité critique, évidemment, eh bien, c'est une manière de légitimer un discours qui va être construit sur des préjugés. Ariana Fallaci a écrit un discours complètement réactif, dans des conditions biographiques pour elle difficiles. En tout cas, toujours est-il que son propos est clairement d'étaler ses préjugés xénophobes contre ce qu'elle appelle les fils d'Allah, c'est-à-dire les musulmans qui ont pour tort d'être étrangers à la culture d'Ariana Fallaci, à sa représentation de la culture. Que Pierre-André Taguieff, Alain Finkielkraut et d'autres aient soutenu le propos d'Oriana Fallaci n'est pas étonnant, puisque ça correspond bien finalement au mouvement d'ensemble. Alors, l'idée principale d'Oriana Fallaci, on peut la résumer en citant un passage du second ouvrage, La force de la raison, qu'elle a écrit à la suite de La rage et l'orgueil, dans lesquels elle critique le vice-président du Conseil italien, et elle lui écrit ceci, elle lui dit « Vous allez à Jérusalem, vous pleurez des larmes de crocodile devant Yad Vashem, la kippa sur la tête, puis vous forniquez de la façon la plus effarante avec les fils d'Allah. » Qu'est-ce que forniquer de la façon la plus effarante avec les fils d'Allah, de telle sorte que les larmes versées à Yad Vashem soient des larmes de crocodile? Est-ce soutenir le négationnisme qui se propage, qui existe dans les universités du monde arabo-musulman? Non. Est-ce que c'est soutenir l'Iran dans l'obtention d'une arme nucléaire, alors que c'est un pays dont le président a dit que rayer Israël de la carte faisait partie de son projet? Non. Non, la fornication dont il est question est la suivante. Vous voulez leur accorder le droit de vote, vous déclarez qu'ils le méritent parce qu'ils paient des impôts et ont la volonté de s'intégrer ou sont en train de s'intégrer. Donc voilà, la lutte contre l'antisémitisme s'exprime dans les textes de Falaschi, c'est quoi? Eh bien c'est, pour l'essentiel, de qualifier d'antisémite celui qui pense que les étrangers qui travaillent, qui vivent en Italie, en France, le droit, ils doivent, effectivement, on doit leur accorder le droit de participer à la vie politique. Voilà, voilà ce qu'est être un antisémite, selon Ariana Falaschi. C'est d'avoir cette conception-là. Alors, évidemment, c'est une conception clairement d'extrême droite, et c'est une conception d'extrême droite qui, chez Ariana Falaschi, va s'exprimer ensuite d'une manière tout à fait symptomatique, puisqu'elle va parler des poursuites judiciaires qui ont été intentées contre elle en Suisse, et elle va citer d'autres victimes de ce qu'elle appelle l'Inquisition, c'est-à-dire c'est la justice helvétique. Le défenseur des animaux suisse Erwin Kessler, qui, comme Brigitte Bardot, ne supporte pas l'abattage halal et qui, pour l'avoir critiqué, se fit flanquer 2 mois de prison ferme. Un autre exemple, l'historien suisse Gaston Amodruz, octogénaire, qui publiait un petit mensuel révisionniste, « Revoir l'histoire, c'est-à-dire la raconter d'une façon différente de la version officielle, est interdit de nos jours, vive la liberté », et qui fut condamné à cause de cela, le 10 avril 2000, par le tribunal de Lausanne, à 1 an de prison et à une lourde amende. Un autre, l'historien français Robert Forisson, révisionniste aussi, qui fut poursuivi en justice, à son insu, le 15 juin 2001, et condamné à 1 mois de prison, ferme aussi, malgré son âge avancé, pour le motif qu'un de ses articles, publié en France, avait été repris par une revue helvétique. Donc, Ariana Falaschi nous dit que le révisionnisme de Forisson et d'Amodruz, qui est donc la négation des chambres à gaz homicides, c'est la liberté de revoir l'histoire, c'est-à-dire de contester la version officielle de l'histoire. Parce que, à terme, bien entendu, laisser libre cours aux préjugés, anéantir la possibilité critique, à terme, on retrouve l'extrême droite classique, dont on nous dit que ce n'est plus elle qui est porteuse d'un antisémitisme. On la retrouve, bien entendu, on la retrouve avec ses traits symptomatiques, la haine des immigrés, la haine des étrangers et évidemment le négationnisme. Pourquoi ? Parce que tout cela va ensemble, va de pair, et finalement, comment articuler la figure de l'étranger à cette question que nous avons évoquée, qui est celle de la possibilité critique ? Terminons là-dessus peut-être. L'acte fondateur de la philosophie, ce sont les dialogues de Socrate, écrits par Platon. La figure de Socrate qui va être condamnée, par la démocratie athénienne, pour avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire pour avoir introduit cette possibilité critique, celle finalement du rationalisme, de l'exigence de rigueur, de méthode, qui est celle d'un rationalisme. Le dernier dialogue de Platon, qui s'intitule Le Sophiste, substitue à Socrate, Socrate n'intervient plus, qui est l'intervenant qui a la position de Socrate, Platon l'appelle l'étranger. Voilà. C'est en ce sens, je crois fondamentalement, qu'il importe de réfléchir à la manière dont ces intellectuels s'en sont pris à des gens comme Yael Sivan, à des gens comme Bourdieu ou Morin, à des gens comme Alain Badiou. Et dans la mesure où toutes ces personnes-là exercent cette possibilité critique, et aussi pourquoi ces gens-là s'en sont pris à vous, Daniel Mermet, parce que je crois que nous avons ensemble exercé cette possibilité critique envers un courant idéologique et envers des préjugés.
Das macht mich verrückt, kann's nicht sein. Im Magen, ach, wie mich das aufregt.
Merci à tous. Je rappelle à nouveau le titre du livre d'Ivan Segré, La réaction philosémite ou la trahison des clercs. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Je vous signale également un livre qui vient de sortir à la découverte, qui s'intitule L'antisémitisme à gauche de Michel Dreyfus. Passionnant. Patrick Henry et Stéphane Poitvin étaient à la technique. Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, assistée de d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Attends vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, ça va chauffer au 01 56 40 37 37. Il est 16h et une poignée de secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les informations avec Clotilde Dumez. Salut.